Chapitre 12. 27 corps tirés de la Marne. Et un fait surprenant, on comptait 6 hommes parmi les victimes. 2 d'entre eux avaient la cinquantaine, 3 la trentaine, et le dernier n'avait sans doute pas atteint ses 18 ans. Eux aussi avaient été mutilés et probablement torturés avant d'être tués. De certains corps, très anciens, il ne restait que des ossements. Il avait fallu toute la journée aux plongeurs pour remonter à la surface leur macabre butin. On avait disséminé les cadavres dans la végétation en attendant de les transporter par bateau à l'Institut légal, situé depuis moins d'un an sur les rives de la Seine. 4 voyages avaient été nécessaires. On avait achevé le travail aux alentours de minuit. Edmé avait passé une combinaison isotherme pour aider les plongeurs à charger les corps, tandis que Sylvaine surveillait les environs. Les 2 flics avaient passé la crique au peigne fin et glissé dans des sacs plastiques les maillons de chaîne, les bouts de ferraille et les autres objets susceptibles de contenir des empreintes digitales ou génétiques. 27 cadavres. Les élections avaient beau approcher, le gouvernement avait beau planquer les scories sous les tapis de la République, l'affaire de l'île aux loups ne tarderait pas à éclater dans les médias. Conducteurs des trains de marchandises qui filaient sur le viaduc, piétons et joggeurs déambulant sur les berges de la Marne, habitants de l'île, rameurs, il se trouvait certainement parmi eux un fouineur, un curieux, qui avait aperçu les nombreux corps remontés à la surface et alerté les radios, les journaux ou les télés. Edmé et ses collègues avaient réussi à transférer tous les cadavres avant l'intrusion des journalistes. Ce serait désormais au chargé de communication de la crime de se débrouiller avec les chiens enragés du fait divers. À cela, il était pratiquement impossible d'écarter les mâchoires lorsqu'il les refermait sur un os. On attendait les résultats des investigations des techniciens. Blachon, la grande gueule, se faisait étrangement discret lorsqu'il croisait Edmé au self-service ou devant la machine à café. Le charnier de l'île aux loups éclipsait dans les conversations l'affaire du tueur en série qui œuvrait dans les quartiers huppés de la capitale. On savait que ce dernier agissait seul, choisissait toujours le même type de victime, des adolescentes qu'il enlevait sur le chemin entre le lycée et le domicile, et qu'il torturait à mort avec un sens du raffinement terrifiant. On avait établi son portrait robot, brun, yeux clairs, entre 20 et 30 ans, plutôt beau gosse et athlétique. On se livrait à l'habituelle chasse à l'homme dans les rues de Paris. Le meurtrier finirait par s'emberlificoter dans le filet. À force de provoquer, de flirter avec les limites, les tueurs les plus coriaces, les plus pervers, commettaient un jour ou l'autre l'erreur minuscule qui précipitait leur chute. On restait donc dans une banalité relative, même si, comme les victimes se recrutaient dans les beaux quartiers, le microcosme politique et médiatique bramait à chaque occasion sa colère et son impatience. L'affaire de l'île aux loups était en comparaison beaucoup plus intrigante et excitante. L'importance du charnier, l'anonymat des victimes, leur disparité, la différence des sévices et des modes d'exécution formaient un écheveau complexe, difficile à démêler. Le divisionnaire avait décidé de donner pour l'instant la priorité absolue à la neutralisation du tueur en série de l'Ouest parisien, histoire de calmer le gouvernement et les médias. Dès qu'on aurait réussi à serrer ce salopard, on lancerait l'ensemble des équipes sur l'affaire de l'île aux loups. En attendant, puisqu'ils avaient fait un excellent travail, Edmé et Sylvaine restaient chargés de l'enquête. Le juge leur avait accordé une commission rogatoire et ils pourraient compter sur la coopération pleine et entière des services techniques. Le vent répandait une odeur indéfinissable, entre puanteur d'égout, effluve de poissons pourris et senteur des arbres en fleurs. Je suis désolé, Elmiso. Assise sur la planche centrale de la barque, Sylvaine fixait son équipier au travers de ses mèches qui, pour une fois détachées, lui balayaient le front et les yeux. Debout à l'arrière, Edmé se contentait de placer la rame en opposition sur le côté pour maintenir l'embarcation dans le courant. La traversée de la Marne lui réclamait de moins en moins d'efforts et de moins en moins de temps, signe qu'il progressait à pas de géant dans l'art de la navigation fluviale. Le temps était mi-figue mi-raisin, un zeste de soleil et quelques rosaces bleutées dans un plafond de nuages clairs et lents. Désolé pourquoi. Sylvaine remonta quelques-unes de ses mèches d'un geste mécanique. Elle était nettement plus féminine, nettement plus jolie avec ses cheveux défaits. Edmé ne savait pas si son chouchou avait glissé par accident ou si elle avait pris l'initiative de le retirer. Cette saloperie que le Corse m'a obligé à faire, tu sais, lui rapporter tes faits et gestes. J'aurais jamais dû accepter de faire ça à un équipier. Surtout à toi. Mais... Edmé l'interrompit d'un geste de la main. Une rafale s'engouffra dans son impair et faillit le renverser.
T'inquiète pas pour ça. On a tous nos petites compromissions.
Il voulait te virer de l'équipe. Te muter dans un quelconque bureau. Je devais passer deuxième de groupe. J'en ai un peu marre de la procédure, tu comprends? Marre de me cogner les rapports et tout le boulot administratif.
Pourquoi ils voulaient? Ils veulent plus?
Sans doute que si, tu les connais. Mais ils auront plus de mal maintenant. Sans toi, on n'aurait jamais trouvé ce charnier.
Je ne sais pas si c'est un bon point pour moi. L'affaire de l'île aux loups tombe plutôt mal dans le climat actuel. Je m'en fous. C'est peut-être ma dernière affaire sur le terrain, et j'ai bien l'intention de la conduire jusqu'au bout.
Je t'aiderai, Edmé. Tu sais, j'avais vraiment pas envie de te voir partir du groupe. Et si j'ai accepté de surveiller tes faits et gestes, c'était surtout pour... Enfin, pour...
T'inquiète pas de ça.
Le sourire franc de Sylvaine le réchauffa mieux que les pâles rayons du soleil printanier. Sur le ponton, un homme âgé chargeait des sacs poubelles dans une embarcation étroite et plate qui semblait sur le point de sombrer à la moindre risée. Les deux flics explorèrent encore une fois la crique en quête d'un indice qui aurait échappé à leurs précédentes investigations. Ils élargirent le cercle en fouillant assez profondément dans la végétation, ne trouvèrent rien d'autre que des bouts de tissu ou des sacs plastiques déposés par le vent et les courants. Découragés, légèrement essoufflés, ils s'assirent sur la large souche qui leur servait de banc pour fumer. Ils n'avanceraient pas sans les rapports des légistes. Rien ne garantissait non plus que les conclusions des techniciens leur soient d'une quelconque utilité. « Ce que je me demande, soupira Sylvaine, c'est comment tous ces corps sont arrivés là ?»«
Les tueurs ont sans doute fait comme nous. Ils ont transporté par bateau. »
Mais Edmé n'y croyait pas. Sur l'île, on aurait immanquablement repéré les manœuvres fréquentes d'un bateau n'appartenant pas à l'un de ses habitants. Il ne pensait pas non plus que les victimes étaient arrivées vivantes. Là encore, quelqu'un aurait remarqué leur présence. Son regard vogua sur la Marne et dériva sur le courant, qui charriait son lot habituel de branches et de déchets balancés dans l'eau par des riverains indélicats. Il voguait en procession, au même rythme, comme porté par un tapis roulant, et s'échouait dans les herbes de la crique, où il demeurait un moment avant d'en être expulsé par les contre-courants. Le regard d'Edmé remonta jusqu'au premier méandre de la Marne, distant d'environ 200 mètres et bordé de pavillons ensevelis sous les arbres. Son attention fut attirée par un éclat de lumière, puis par deux silhouettes minuscules et sombres perchées sur un toit en terrasse. Elles restèrent immobiles quelques secondes avant de disparaître avec une précipitation qui l'intrigua. Son regard les avait-il dérangés? Son esprit, en berne depuis quelque temps, se remit à frémir. À nouveau, il perçut un murmure qui, bien que lointain, assourdissait le tumulte ordinaire de ses pensées.
« On devrait aller faire un petit tour là-bas, » dit-il en tendant le bras vers l'amont de la rivière.
« Pourquoi? T'as remarqué quelque chose ?»«
C'est sûrement une connerie, mais comme on n'a pas d'autre piste... »
Ils retraversèrent la Marne, amarrèrent la barque à la bitte de béton et se rendirent à pied à l'endroit indiqué par Edmé en suivant la route en mauvais état qui longeait la rivière, flanquée d'un côté par les modestes pavillons, de l'autre par des arbres et des hangars. Ils croisèrent quelques promeneurs et deux femmes adeptes de la marche et de la conversation rapide, vêtues de brassières et de shorts moulants maculés de transpiration. Au bout de 100 mètres, Sylvaine haletait comme un chien après une course folle.
« Ah, je devrais arrêter de fumer, » maugréa-t-elle. « Je suis même plus capable de faire 50 mètres sans avoir un point de côté. »
Edmé avait lu quelque part que son équipière était âgée de 36 ans, célibataire et sans enfant. L'Europe, en phase terminale, comptait de plus en plus de branches mortes. La population vieillissait et il n'y avait déjà plus assez de bras pour la nourrir. Les anciens étaient de plus en plus nombreux à reprendre un boulot humiliant après leurs 70 ou 75 ans. Edmé, lui, n'avait pas l'intention de faire de vieux os quand on l'aurait mis à la retraite. Pas question d'arrêter de fumer maintenant. Il ne disposait pas d'autre clou pour fermer le couvercle de son cercueil.
« Alors, Miso, qu'est-ce que t'as vu ?» demanda Sylvaine entre deux quintes de toux.
« Tu tousses comme une petite vieille. »
Les habitations du quartier dataient à vue des années 1940 à 1960. En piètre état pour la plupart, construites de briques et de brocs dans une hâte et une incohérence impensables aujourd'hui. Quelques-unes, à l'abandon, attendaient les pelles des bulldozers pour donner naissance à l'une de ces proprettes résidences de 3 ou 4 étages dont raffolaient les promoteurs immobiliers.
« Occupe-toi de tes fesses, Edmé !»
Il la considéra un petit moment avec une moue sceptique.
« Toi, tu as encore un avenir.
T'es pas si vieux que ça. » Il lui répondit d'un petit rire rauque.
« Je prends ça pour un compliment. »
Il crut déceler une lueur d'intérêt et de complicité dans les yeux noisettes de son équipière. Se dit aussitôt qu'il était victime d'une illusion d'optique.
« Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»
Edmé fouilla les environs du regard. « Faut que je retrouve ce pavillon avec le toit en terrasse. J'y ai vu deux kidam qui se sont carapatés quand je les ai repérés. Et juste avant, un éclat de lumière. Comme s'ils nous observaient avec des jumelles ou un appareil photo.
Plutôt mince, j'ai rien d'autre. Je me raccroche, tu sais. »
Il se tamponna le crâne de l'index.
« À des lubies, quoi. »
Il leur fallut une demi-heure pour repérer le pavillon au toit plat, seul de son espèce, planté au bord de la Marne, entouré d'un jardin en friche et de 2 hangars de tôle rouillée. Les volets, défoncés et entr'ouverts, révélaient des fenêtres au bois écaillé et aux vitres brisées. Le crépi des murs partait en lambeaux, dénudant des pans entiers de moellons en mâche-fer. Le soupirail arrondi du sous-sol évoquait l'œil mi-clos d'un saurien. Edmé grimpa sur un tas de gravats pour jeter un regard par-dessus le mur haut de 2 mètres cernant le jardin situé à l'avant de la construction. Un portail en fer donnait directement sur un immense ponton de béton fissuré et jonché de feuilles mortes qui dominait la rivière. C'était la seule bâtisse des environs construite au ras de l'eau. Son sous-sol et son rez-de-chaussée risquaient l'inondation à chaque crue. Elle avait probablement abrité une activité liée au bateau ou au sport nautique. Sylvaine désigna la porte d'entrée perchée en haut d'un petit escalier sous une marquise au verre craquelé.
« On va voir qu'est-ce que cette baraque a dans le bide, le miso ?»
Sans attendre la réponse de son équipier, elle gravit les 6 marches, chercha la sonnette et n'en trouvant pas, frappa du poing sur le bois de la porte. Edmé se tendit, étreint par une inquiétude soudaine, suffocante.
« Fais gaffe, Sylvaine !»
Elle écarta les bras, les lèvres déformées par une grimace.
« Qu'est-ce que je risque ? T'es avec moi, non ? On dirait qu'elle est abandonnée. On essaie d'ouvrir ?»
Il la rejoignit sous la marquise et donna un premier coup d'épaule dans la porte pour en évaluer la résistance. Elle n'était pas aussi délabrée qu'elle paraissait. Elle ne se laisserait pas facilement ouvrir. Edmé n'avait jamais été un as du crochetage des serrures. Hassan Morcelli, l'ancien gosse des cités, l'aurait forcé en un tournement.
« Je sais pas si ça vaut le coup, » marmonna Edmé.
Les 2 ombres que j'ai aperçues sur la terrasse étaient peut-être seulement des gamins en train de fumer un pétard.
« Moi, maintenant, elle m'intrigue, cette baraque. »
Sylvaine avait pris son air buté. « Quelque chose me dit qu'elle cache un tas de trucs intéressants. Si la porte veut pas s'ouvrir, on passera par la fenêtre.
Par le soupirail, plutôt. J'ai cru voir qu'il était ouvert. »
Ils dévalèrent le petit escalier et se rendirent devant le soupirail dont le volet métallique plein, avec un petit cœur percé au centre, était effectivement entrebâillé. Sylvaine le poussa du pied. Il s'écarta dans un grincement horripilant, libérant un passage étroit dans lequel pouvait se glisser un visiteur de faible corpulence. Une odeur de moisissure et de pourriture se diffusa dans l'air frais.
« Je crois que je passe !» murmura Sylvaine.
« T'es sûr ?»«
Hé, me dis pas que tu me trouves grosse !»«
T'es conne. C'est juste que j'aime pas l'idée de te laisser aller toute seule là-dedans. »
Sylvaine lui posa la main sur la joue. La douceur, la tendresse de son geste le surprirent.
C'est qu'il s'inquiéterait pour une faible femme, mon miso.
T'en fais pas.
Elle écarta son blouson et tapota la crosse de son pistolet enfoui dans son étui.
Je sais me servir de ça.
Elle s'introduisit en commençant par les jambes dans la bouche sombre et arrondie du soupirail.
Attends-moi devant la porte, Edmé. Je monte t'ouvrir.
Lorsque l'obscurité du sous-sol l'eut avalé, il revint près de la porte d'entrée. Pas un bruit ne retentissait dans les environs. Pas un ronronnement de moteur, pas un chant d'oiseau, pas un clapotis. Les sons se brisaient sur une invisible barrière. Les nuages s'éloignaient convoyés par le vent et dégageaient un ciel d'un bleu pâle frangé d'or. Le soleil transformait la Marne en un long miroir argenté et scintillant.
Qu'est-ce qu'elle fout, bon Dieu !
Une éternité s'était déjà écoulée depuis que Sylvaine s'était faufilée dans le sous-sol. Edmé plongea machinalement la main dans la poche de son imper, saisit son paquet de cigarettes, renonça à fumer, s'empara de son Sig Pro sous sa veste, le tira de son étui et l'arma, de plus en plus nerveux. Trop vieux pour ce genre de conneries, merde. L'arme au poing, il colla l'oreille au bois de la porte. Crut discerner un gémissement lointain, étouffé. Se demanda si cette plainte n'était pas le fruit de son imagination. La tension rendait ses muscles plus durs que de la pierre. Il tenta de se décontracter. Peine perdue. L'angoisse continuait de monter en lui, une vague puissante et glacée qui engloutissait ses pensées. Qu'est-ce qu'elle foutait, nom de Dieu ! Il donna un deuxième coup d'épaule à la porte. Elle ne bougea pas d'un millimètre. Elle était sans doute renforcée ou blindée de l'autre côté. Le soupirail. Si son équipière était passée, il passerait lui aussi. Il n'était pas beaucoup plus corpulent qu'elle. Il dévala l'escalier en deux bonds. Le volet métallique était resté grand ouvert. Il se glissa dans le soupirail. Ses hanches et ses épaules frottèrent contre les pierres taillées. Son imper et sa veste accrochèrent des crochets métalliques et d'autres excroissances. Se tortillant dans tous les sens, il réussit à franchir l'ouverture. Ses cheveux frôlaient la voûte de la cave, tellement basse qu'elle l'obligeait à garder la tête rentrée dans les épaules. Une odeur lourde, écœurante, se mêlait à celle de moisissure et de charbon. Il attendit que ses yeux s'accoutument à la pénombre pour avancer entre les murs de moellons qui, de chaque côté d'une allée centrale, divisaient l'espace en compartiments. Il entrevit une forme claire dans un recoin. S'en approcha, faillit se cogner à la poutre de béton qui soutenait le sous-sol sur toute sa largeur. Un corps. Une femme. Nue. Enchaînée par les pieds et les mains à des anneaux métalliques scellés dans les murs. Il se pencha sur le cadavre. Puanteur caractéristique de chair en putréfaction. Elle était morte depuis plusieurs jours. Surmontant sa répulsion, il lui posa par réflexe le pouce et l'index sur ses jugulaires. Des estafilades profondes, bourgeonnantes, couraient sur ses bras, ses jambes, son cou, ses seins, son ventre et sa vulve. Celui qui s'était occupé d'elle n'avait laissé intacte aucune parcelle de son corps, hormis le visage. Du sang avait séché de part et d'autre de ses lèvres entrouvertes et de son menton. On lui avait tranché la langue pour l'empêcher de hurler. Elle avait connu l'enfer dans cette cave sinistre. Un gémissement monta dans le silence de tombe. Sylvaine. Edmé se releva un peu trop brusquement. L'arrière de son crâne heurta la poutre de béton. La douleur, féroce, le tétanisa. Des flocons dufteux et tièdes s'écoulèrent derrière son oreille et dans son cou. Du sang. Pas le moment, merde. Il plaqua sa main libre sur la plaie. Un cri bref, perçant. Ça venait de plus haut, de l'escalier reliant la cave au rez-de-chaussée.